c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Sur Radio Barthas.
Tout est va du pied. Dans l'épisode précédent, nous avons posé le constat d'un déracinement encouragé ou normalisé dans notre histoire récente par la centralisation, la colonisation, mais aussi par des injonctions à la flexibilité et à la mobilité de plus en plus prégnantes dans nos sociétés. Le sens des racines, c'est-à-dire des attaches communautaires et locales, est quant à lui associé au conservatisme, au danger de l'intolérance et à l'impossibilité d'évoluer à l'échelle individuelle. Cette critique a une histoire et également un sens et une pertinence. En effet, le libéralisme, en tant que courant philosophique et qui se distingue du libéralisme économique, a attaché à l'individu des droits et libertés individuelles inaliénables, comme par exemple le droit à la propriété, la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, et grosso modo de mener sa vie selon ses propres conceptions de ce qu'est le bonheur. Ce courant de pensée, représenté par des penseurs aussi divers qu'Adam Smith, John Stuart Mill, John Locke ou encore plus récemment John Rawls, a été fondateur d'un point de vue historique. La Révolution anglaise, au XVIIe siècle, puis la Révolution française, au XVIIIe siècle, avec la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doivent beaucoup à ce nouveau climat de pensée qui pose que l'individu dispose de droits inaliénables au regard de l'État. L'État, pour les libéraux, n'a le droit de limiter la liberté d'un individu que lorsque celle-ci représente une menace à la liberté d'autrui. Ce principe, qu'on appelle tout simplement le principe de non-nuisance, est le fondement du système moral de nos démocraties. Fais ce que bon te semble, tant que cela ne nuit pas à un autre. Le libéralisme critique fortement les monarchies européennes et ce qu'on pourrait appeler le paternalisme, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à imposer à d'autres un certain mode de vie. Dans son traité intitulé De la liberté, publié en 1859, le philosophe John Stuart Mill le formule ainsi. Le seul but en vue duquel on puisse à juste titre recourir à la force à l'égard de tout membre d'une communauté civilisée, contre sa propre volonté, c'est de l'empêcher de faire du mal aux autres. Son propre bien, physique ou moral, n'est pas une justification suffisante. Sur lui-même, sur son propre corps et sur son propre esprit, l'individu est souverain. En d'autres termes, même si une majorité de gens pensaient au hasard que l'homosexualité est contre nature ou immorale, du point de vue libéral, comme elle ne nuit en vérité à personne en particulier, elle ne peut pas être interdite. Les conceptions paternalistes sur ce qu'est le bien de l'individu ne peuvent pas, comme Mill le souligne ici, être une justification suffisante. Il est maître de son propre corps et de son propre esprit. Le libéralisme permet de lutter contre ce que Mill appelle la tyrannie de la majorité, qui voudrait parfois nuire à la liberté d'un individu, par exemple en restreignant son choix en termes de partenaire sexuel consentant, alors même qu'elle n'a aucune justification autre que ses propres interprétations du monde. Il ne faudrait donc pas oublier que les principes de la pensée libérale, s'ils sont aujourd'hui mis en crise parce qu'ils peuvent encourager une forme d'individualisme et de flexibilité extrême, et parce qu'ils ont tendance à nier le fait que les individus sont toujours le reflet des communautés auxquelles ils sont attachés, servent et ont servi avant tout à protéger les individus, en particulier lorsque ceux-ci voudraient s'extirper de communautés qui leur imposent des façons de faire ou de penser auxquelles ils n'adhèrent pas ou qui étouffent leur liberté. Pour prendre un exemple, comment protéger quelqu'un qui voudrait sortir d'une emprise familiale, sectaire ou traditionnaliste, autrement que par les principes libéraux qui garantissent la liberté de chaque individu? Poser des limites au libéralisme ne doit ainsi pas nous conduire pour autant à valoriser toute forme de communauté, et surtout la dépendance extrême à ces communautés. Dans notre épisode précédent, nous avions cité le philosophe américain dit « communautarien » Michael Sandel et son article « La République procédurale et le soi désencombré ». Dans ce texte, Sandel explique que l'individu dit libéral est une fiction, un individu abstrait, désencombré, défait de ses attaches et de ses engagements communautaires. Le véritable individu n'est toujours enraciné, c'est-à-dire lié par des engagements affectifs envers d'autres personnes. Pourtant, Sandel le répète aussi à l'envi, nous ne sommes que partiellement constitués par nos communautés, et l'individu doit pouvoir à tout moment s'opposer à une formation de caractère qui lui serait préjudiciable. Bref, il doit pouvoir, s'il le désire, s'émanciper. En un sens donc, même si l'individu est enraciné dans une communauté, cela ne doit pas le conduire à accepter toutes les valeurs ni tous les choix de cette communauté. Il doit pouvoir conserver sa liberté, celle de s'en extirper totalement, ou bien de sélectionner ceux qui lui semblent le plus profitable. Un des critiques de Sandel, Richard Dagger, en conclut donc que les obligations qui nous lient à nos communautés ne sont jamais des contraintes objectives et que l'individu a toujours la capacité de les remettre en question s'il estime qu'elles sont illégitimes. Pour Dagger, s'il faut effectivement reconnaître que les individus sont interdépendants, liés à des communautés, il ne faut pour autant pas trop abandonner l'idée de liberté individuelle, d'une forme d'autonomie relative. En fait, être lié à une communauté ou s'enraciner ne signifie pas, contrairement à ce que voudrait l'extrême droite, faire l'apologie de l'immuable, vouloir conserver à tout prix les territoires et les pratiques telles qu'elles sont. Ce n'est pas non plus vouloir conserver l'idée d'un seul bien commun ou d'un seul socle de valeurs communes dans lesquelles il faudrait absolument se reconnaître, pas plus qu'il ne s'agit de transformer nos frontières en murs. S'enraciner, ce pourrait être aussi participer librement pour faire évoluer sa communauté dans un sens qu'on estime être juste. Ce pourrait être capable de s'orienter et de se reconnaître dans l'espace, sur la terre que partage une communauté, deux aptitudes nécessaires, matérielles, affectives, symboliques et politiques. C'est davantage tisser des formes de relations collaboratives entre nous et avec des communs concrets, derrière lesquels chacun mettra les interprétations symboliques qu'il voudra, comme l'eau, la terre, la langue, les services publics, plutôt qu'à un bien commun, conçu comme patrimoine identitaire ou culturel unique, uniforme. Cette conception de l'enracinement est donc active plutôt que passive. Elle reconnaît que l'individu réforme la communauté dont il est issu. Il ne fait donc pas que la reproduire ou la perpétuer. Elle reconnaît également qu'il a un rôle actif dans son enracinement, qu'il peut développer des stratégies pour renouer un attachement perdu à un territoire, pour convertir son regard sur lui. L'idée est donc d'insister sur la liberté que doivent conserver les sujets dans l'attachement à leur territoire et de leur redonner une voix dans son développement et sa protection. Cette conception reconnaît enfin un fait commun et fondamental. Les appartenances, les identités sont multiples. Nous ne nous réduisons pas à une identité, pas plus que nous sommes assignés à un seul lieu. Au cours de nos vies, nous tissons une multiplicité d'appartenances, nous nous impliquons dans différentes relations, dans différentes communautés. De fait, aujourd'hui dans notre société, nous appartenons à plusieurs lieux de vie et de travail, à un ou plusieurs genres, à un ou plusieurs engagements professionnels ou bénévoles, à une ou deux ou trois familles de filiation ou d'amis, à différents liens affinitaires, familiaux, amicaux, amoureux. Nous répondons à différentes identités qui correspondent à des relations, des habitudes, des façons de faire, des responsabilités. Il est possible d'être issu de la communauté LGBTI+, et rurale, intellectuelle et footballeuse, marocain et français. Nous avons donc différentes racines qui courent de partout, différentes branches. On hérite d'habitudes comme des graines semées en nous, on en transmet à d'autres, on évolue d'une certaine manière selon les lieux, les gens, les langues que l'on fréquente. L'enjeu est donc de créer des espaces où nous nous sentons libres et respectueux de nos différentes appartenances, où nous ne soyons pas rejetés pour l'une ou l'autre. Il s'agit donc d'un côté de se sentir libre de cultiver des attaches qui nous importent, par exemple pouvoir continuer à parler une langue transmise que l'on aime et qui nous relie à d'autres personnes, et de l'autre côté, s'interroger et lutter contre ce qui peut humilier, oppresser, faire violence, y compris dans nos pratiques auxquelles nous pouvons être attachés. Qu'est-ce que ça serait lutter contre nos déracinements? Cultiver nos attaches communautaires et affectives. Chercher des façons de faire cohabiter nos racines. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons développer quelques stratégies, parmi tant d'autres ouvertes par les activistes, les militants, les associations, par lesquelles chacun et chacune peut se réenraciner, recréer du lien au territoire et aux vivants qu'il habite, bref, refaire communauté. Ce deuxième épisode sur l'enracinement est toujours coécrit avec Magali Trito-Maurice, doctorante entre les universités de Bourgogne et de Toulouse, spécialiste des littératures et des langues régionales. Vous écoutez Les Vanupiers, et aujourd'hui nous allons parler de nos enracinements. Là où le monde a commencé, je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant, et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant.
Dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressée aux rituels et aux pratiques que des personnes ou des groupes déracinés mettaient en place pour résister à leur déracinement. Se déraciner, c'est sentir une rupture, une discontinuité, et certains rituels que l'on choisit de porter avec soi, malgré tout, contribuent à restaurer des continuités dans la vie qui sont essentielles à la stabilité. Par exemple, emporter avec soi des objets de valeur, de mémoire, des photos d'un déménagement à l'autre, garder un bijou qui a appartenu à une personne décédée, écrire sa mémoire, parce que la mort est une forme de déracinement. Chez des gens qui avaient vécu à la campagne, j'ai constaté que le rapport à la nature, au paysage, à certaines pratiques villageoises, étaient des choses précieuses que ces personnes mobiles s'attachaient à continuer. Dans un livre intitulé « Réenchanter le monde », Sylvia Federici parle de pratiques de femmes nigérianes et ghanéennes qui, dépossédées de leurs terres expropriées, se mettaient à cultiver en ville des bouts de terrain, des rebords de route, des carrés de friches urbaines. Elles le faisaient sur le même mode commun et collaboratif que celui du village dont elles venaient, à plusieurs et dans une optique de partager les ressources. C'était une façon de se sécuriser. Ce rapport à la terre permet une autonomie alimentaire, qui était celle du village, de ne pas dépendre d'un salaire pour s'acheter à manger par exemple. Mais Federici montre que certaines femmes qui se trouvent d'un travail salarié en ville à côté, par sécurité, continuent à cultiver parce qu'il s'agit d'une pratique qui leur importe. Dans la même veine, Bell Hooks, toujours dans « Cultiver l'appartenance », dont on a parlé dans le premier épisode, explique que même si son histoire de famille est celle de déracinements successifs, elle avait connu un sentiment d'appartenance fort dans les montagnes du Kentucky. Au cours de ses déménagements dans de nombreuses grandes villes, des rituels permettaient de continuer à se rapporter aux usages de sa communauté, cultiver des plantes aromatiques sur son balcon, connaître ses voisins, choisir des quartiers mixtes pour y vivre, pratiquer la spiritualité chrétienne dont elle hérite, prier, chanter. Continuer certaines pratiques culturelles, comme parler une langue, pratiquer une religion, des arts comme le chant, la danse, la musique, est une façon de ne pas se sentir marginalisé, désorienté vis-à-vis de ses attaches, de sa mémoire, de ses identités. La relance de ces pratiques culturelles peut venir questionner le mode de vie dominant du lieu où l'on habite. Par exemple, les pratiques de culture des femmes au Ghana viennent questionner l'urbanisation, l'accaparement de terres, la transformation d'espaces où vivaient des sociétés traditionnelles avec une agriculture vivrière sur des terres communes, en lieux privatisés, artificialisés, convertis à une économie de marché capitaliste. Le geste paraît anodin et superficiel, mais il exprime un rapport à l'espace et à l'agriculture différent du nôtre. Il n'y a pas besoin d'établir une relation de propriété privée pour cultiver un endroit. Autre exemple de pratique qui questionne le mode de vie dominant, continuer à parler une langue maternelle ou une langue transmise dans un contexte diglotte ou polyglotte où cette langue est minorisée. La France étant une nation marquée par un monolinguisme très fort et très rigide, il est intéressant que des pratiques plurilingues, voire translingues, aient cours pour questionner cette norme. Pour les religions, par exemple, la laïcité se donne comme principe qui permet la liberté de culte et le respect du culte des autres, en théorie. Elle a pu permettre à certains moments de protéger certaines minorités religieuses lorsqu'elles étaient opprimées par d'autres. Ce principe, lorsqu'il est défini comme liberté de culte, permet qu'une pluralité de croyances d'agir, de communauté soit possible. Cette diversité fait qu'un groupe humain n'est pas assujetti à une seule norme, ici une seule religion, ne dépend pas d'une seule communauté. Ces pratiques de résistance au déracinement se donnent comme des façons de continuer à faire vivre des héritages. Ne pas perdre telle chanson d'enfance, telle façon de manger, de prier, faire en sorte qu'une langue ne meure pas. Il s'agit de s'inscrire dans un processus de mémoire. Encore une fois, cela ne signifie pas garder de façon aveugle et systématique tout ce dont on hérite. Simplement, il y a des choses que l'on a envie de transmettre et d'autres pas. Pourquoi ? Par exemple, au moment de transmettre ou pas la langue corse à son enfant, une personne corse peut se demander si cela est réellement bon. Ne vaut-il pas mieux transmettre dès le départ le français ? Comme ça, mon enfant sera bon à l'école publique et pourra plus facilement voyager. Et s'il se lie aux Corses et au territoire, est-ce qu'il trouvera du travail ici ? Des personnes de langue arabe qui élèvent leurs enfants en France peuvent se poser les mêmes questions. Ce processus de mémoire et de transmission demeure alors un objet de débat politique démocratique. Que conserver ? Que changer ? Que réformer dans nos pratiques culturelles ou communautaires ? C'est bien pourquoi dans son texte « L'enracinement », la philosophe Simone Veil, dont nous avons déjà parlé, préconise une politique d'éducation qui part du local pour aller vers le national. Pour intéresser les enfants à des questions historiques, géographiques ou littéraires, par exemple, il peut être opportun de partir d'exemples ou de cas qui concernent leurs environnements, les localités, pour ensuite les généraliser ou les différencier d'autres cas. Que l'on y naisse ou que l'on y emménage, on arrive toujours en fait au milieu d'un environnement déjà aménagé, autour de nous, avec ses propres fonctionnements. Et donc s'intéresser à l'histoire, à la géographie, à la politique, par exemple nationale, permet de comprendre pourquoi le corse et l'arabe sont des langues stigmatisées en France. Pourquoi c'est important pour votre grand-mère de servir de la viande à un repas de famille ? Pourquoi il y a si peu de jardins partagés dans les grandes villes en France, accessibles ? Lorsque je suis arrivée dans la ville dans laquelle je vis aujourd'hui, j'ai trouvé une coloc dans un quartier en pleine gentrification. C'est-à-dire que des habitants de classe populaire sont remplacés par des habitants plus bourgeois. Je suis arrivée pile au moment de constater les changements produits sur un lieu, certains changements comme la destruction d'immeubles, de parkings, les plans d'arbres et les constructions de jolis nouveaux appartements. Ici, à Toulouse, les gens me parlent de nombreux bars populaires qui ont fermé, à cause de la hausse des loyers et du fait que les populations les plus pauvres n'ont plus les moyens de vivre dans le centre. Écouter les histoires de ceux qui habitent un endroit depuis longtemps permet de connaître mieux le lieu dans lequel on vit et de retracer les évolutions de cet endroit. S'enraciner donc suite à un déménagement commence, il me semble, par comprendre les besoins, les humeurs, les dynamiques des gens qui vivent autour de nous, qui travaillent avec nous. De même, lorsque l'on commence à cultiver une terre et qu'il faut savoir si elle est riche, appauvrie, pleine de cailloux, visitée par des animaux, exposée ou non au vent, au soleil, à la pluie, il faut comprendre un peu de son histoire. Lorsque l'on commence une relation avec un ou une amie, un ou un amante, la relation va être affectée par ce que chacun a pu vivre auparavant. Le désir d'agir à l'endroit où l'on vit, où l'on travaille, de construire une relation, des relations, ne peut faire l'économie de l'histoire de l'endroit, de l'histoire des gens, des relations. Agir à l'aveugle, ne pas tenir compte du terrain, débarquer, faire table rase ne mène pas loin si ce n'est au ressentiment des autres. On arrive toujours au milieu d'un tissu préexistant de relations qui demande d'observer, de comprendre, en même temps que d'agir. La possibilité de s'investir à un endroit ne dépend pas seulement de la connaissance de son histoire et de ses habitants, mais également de la façon dont l'espace est organisé. Permet-il la rencontre et le déplacement ? A-t-on envie de s'y engager parce que l'on est attaché à ce quartier, ce village ? Les instances politiques, les décisions, se font-elles à échelle locale, ou régionale, ou nationale ? L'aménagement de l'espace est-il vertical, privé, ou concerté avec les habitants-habitantes ? L'urbanisme, les politiques d'aménagement, devraient donc prendre en compte cette question. Cet espace qui est aménagé, organisé, construit pour des populations, est-il aimable ? Les populations peuvent-elles l'investir d'affects positifs, de sens ? S'y reconnaissent-elles et peuvent-elles bien s'y projeter, s'y orienter, s'y investir ?
Dans un article de Télérama intitulé « Comment la France est devenue moche » et publié en 2010, Vincent Rémy et Xavier de Jarcy critiquent la pavillonnarisation et l'étalement urbain à outrance, fait de décisions politiques basées sur l'idéal dit « fonctionnel » de la ville. Cet idéal « fonctionnel » remonterait à l'architecte français Le Corbusier et consisterait à zoner la ville par quartier en les répartissant selon leurs fonctions. Le quartier des loisirs, le quartier des affaires, le quartier résidentiel et enfin les zones dédiées aux grosses infrastructures routières. Ce faisant, cet urbanisme aurait dépossédé ses habitants de leur paysage, de leur logement, en leur imposant souvent par contrainte économique les grands ensembles ou les pavillons. C'est vrai, et sans doute que nous avons tout intérêt à ne plus construire nos villes sur ce modèle, à ne plus fabriquer l'espace de cette façon, à envisager davantage d'intervention des populations dans le processus d'aménagement du territoire. De fait, la fabrique de l'espace est plutôt aujourd'hui le reflet de la perpétuation des inégalités que d'un aménagement horizontal et démocratique. Le périurbain en ville est souvent l'outil de la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire qu'il est pensé pour exclure des populations stigmatisées, pauvres ou racisées, de la ville dite historique, de l'espace public urbain classique. Cependant, en accentuant trop cette critique de la France moche, des banlieues, des pavillons périurbains et des HLM, les auteurs tombent également dans une forme de mépris de classe. Pour ces populations, en dépit du fait qu'elles n'ont souvent pas forcément choisi de vivre là, ces lieux, par exemple l'hypermarché de banlieue ou le centre commercial, les banlieues pavillonnaires, etc., demeurent leur vie quotidienne. Qualifier unilatéralement ces endroits de France moche, par opposition à la France belle, c'est dénier aussi aux habitants leur capacité à investir ces lieux, à les habiter, à leur donner du sens et à y retrouver, y recultiver de la beauté. On pourrait ici détourner le titre d'une exposition de l'artiste algérien Kader Attia. Les racines poussent aussi dans le béton. Les êtres humains ont la capacité de s'enraciner, y compris dans un endroit que des gens pourraient juger de l'extérieur repoussant, fonctionnel, etc. Dans son travail, le géographe Bruno Fedel s'intéresse à ce qu'il appelle l'urbanisme affectif, c'est-à-dire aux émotions et sentiments que nous ressentons par rapport au lieu, du rejet, de l'amour, de la sécurité ou de l'insécurité. Le fait que nous ayons envie de cadres de vie agréables dans l'immobilier urbain et rural montre que nous avons besoin d'aimer nos lieux de résidence, de travail, de vacances, c'est-à-dire notamment qu'ils fassent sens pour nous, qu'ils soient intégrés dans une histoire, un fil narratif qui est le nôtre. Si cela dépend en partie des politiques d'aménagement, il faut en même temps réintroduire l'idée que les individus peuvent à leur échelle investir d'eux-mêmes les espaces qui leur préexistent, qu'ils n'ont pas forcément choisis, et y créer une vie démocratique. Les arts muraux, comme le graffiti, ont pu être un moyen d'habiter l'espace, et la marche en est un autre. Développons ici l'exemple de la marche. Celle-ci permet de s'approprier, ou plutôt d'inscrire un lieu dans une histoire, dans une relation durable. Marcher avec un parent, sur la voie verte de son village, le long d'une rivière, mais aussi sur un terrain communal, une forêt, une falaise qui se jette dans la mer, autant que sa banlieue, sa rue, et même pourquoi pas un échangeur autoroutier pourtant réservé à la voiture, c'est chercher à investir ces lieux d'affect, c'est véritablement nouer une relation avec eux. C'est aussi écrire une carte personnelle, affective, qui n'est pas une carte abstraite, impersonnelle. Dans un texte de 1956 intitulé « La théorie de la dérive », l'intellectuel Guy Debord, attaché au mouvement historique et artistique des situationnistes, a théorisé une manière de marcher dans les lieux qu'il a nommée la dérive. Le projet de celui ou de celle qui dérive est de se laisser gagner par les lieux, c'est-à-dire de se laisser guider par les émotions que les lieux suscitent, bref, de marcher au gré des impressions, des sollicitations, selon la façon dont les lieux nous inspirent ou non. Pour le dire autrement, plutôt que de se déplacer pour des raisons, Debord nous invite à nous déplacer selon nos affects, les impressions laissées sur nous par l'espace. À partir de ses propres dérives dans Paris, il a produit des cartes nommées « cartes psychogéographiques » qui retranscrivent la façon dont certains lieux attirent le marcheur à la dérive, tandis que d'autres agissent au contraire comme des repoussoirs. Debord prétend que ces cartes psychogéographiques sont objectives. Je pense plutôt que sa démarche montre que nos cartes habituelles, comme Maps ou Plan, les cartes IGN ou celles des GPS, qui seraient précisément considérées comme objectives ou neutres, effacent en fait les appropriations toujours subjectives et psychologiques que l'on se fait du territoire. Être subjectif quand on parle d'une carte n'est pas nécessairement un défaut. Au contraire, cela révèle un besoin psychique, celui de se faire une représentation de l'endroit où on vit et de la façon dont on le parcourt. Les habitants d'une ville n'ont par exemple pas des trajets de marche parfaitement rentables lorsque l'on regarde une carte GPS. Parfois, elles prennent des chemins plus longs, plus tortueux, écartent certains lieux pour privilégier une rue qui les émeut ou qu'ils préfèrent, etc. Dans son livre « L'invention du quotidien » publié en 1980, le philosophe Michel de Certeau va même jusqu'à dire que la marche est une manière pour chacun chacune d'inventer son quotidien, de résister à la planification de nos vies et de nos trajets. Prendre une route plutôt qu'une autre, marcher lentement ou rapidement, passer là où vous ne devriez pas, prendre le temps de vous promener dans le quartier parce que vous aimez le reflet d'une lumière le soir sur le bitume ou parce que vous aimez regarder l'orme planté dans le jardin de quelqu'un, sont autant d'attitudes qui vous appartiennent et composent un espace quotidien. Cet espace, il est incarné, vécu, plutôt que géométrique, abstrait. Un espace qu'on ne ferait que traverser le plus vite possible pour se rendre à sa destination, sans prêter attention à ce qui s'y trouve, serait un espace pauvre en signification, purement fonctionnel. Ce que peut montrer le texte de Certeau est que même l'endroit le plus apparemment insignifiant, moche, voire même parfois hostile, peut devenir un espace affectivement investi. Bien sûr, il est évident qu'il ne faut pas abandonner des politiques d'aménagement plus ambitieuses, plus démocratiques et proches du bien-être des habitants. Seulement, il faut aussi pointer du doigt que ce sont nos modes de vie, et non seulement l'aménagement du territoire, qui sont responsables du sentiment de déracinement, et qu'il existe des stratégies de résistance, ici de réenracinement dans nos lieux, dont la marche et sa lenteur font indéniablement partie. Ces stratégies individuelles de résistance, on les appelle en théorie politique et en sociologie, l'agency, ou agentivité en français. L'agency, c'est la capacité d'un acteur ou d'une actrice à résister ou à agir en dépit de ce que lui impose une structure. Disons ici, la société ou une structure plus petite, comme une entreprise, comme l'école, ou comme l'aménagement du territoire, mais aussi une structure abstraite comme le genre ou la sexualité. Ce concept permet de mettre en avant les micro-actes individuels de défense face aux normes. Si la norme aujourd'hui est à l'accélération, à la vitesse, alors peut-être faut-il privilégier individuellement et chaque fois que nous le pouvons, la lenteur et une forme de stabilité. Comprendre la marche, les pratiques artistiques ou même nos petites pratiques quotidiennes comme une forme d'agency, c'est regagner un sentiment de contrôle à la fois sur nos vies et sur nos espaces. Ceci étant dit, il faut noter que la marche en tant que stratégie n'est souvent accessible qu'aux personnes valides et pratiquée majoritairement par des urbains. Pour les territoires ruraux et périurbains, la question est plus complexe puisque ces territoires appellent structurellement l'usage de la voiture. Et pour les territoires les mieux desservis, des transports en commun. Bien sûr, on pourrait aussi imaginer que ces territoires donnent une plus grande liberté aux marcheurs et marcheuses. En effet, à l'intérieur par exemple d'une grande commune rurale ou périurbaine, existe davantage de trous dans le bâti. Pour rejoindre un hameau intégré à la commune depuis le centre, il faudra peut-être marcher une grosse trentaine de minutes, avec le choix de couper par les champs, ou de prendre par la forêt communale, ou d'emprunter les anciens sentiers pastoraux, ou encore les nouveaux sentiers de randonnée. Chacun peut alors plus facilement inventer son chemin, peut-être plus facilement qu'en ville, et encore. Pour autant, qui dispose du temps pour investir l'espace de cette façon, pour marcher, arpenter ses territoires, autrement que pendant son temps de loisir? Et surtout, dans beaucoup d'espaces, qui peut garantir que le marcheur ou la marcheuse n'est pas en danger en se déplaçant, par exemple sur une route très fréquentée par les voitures? Il y a un problème de taille ici, qui ne peut être résolu que par l'action collective. Dans le cas du périurbain, des associations comme Bruit du Frigo, fondée par Yvan Détrazes, ont essayé de répondre à ce problème. L'association a contribué à construire un sentier de randonnée périurbain autour de la ville de Bordeaux, en disposant de nombreux refuges tout au long de la voie, ce afin de relier entre eux les espaces discontinus des différentes banlieues de la ville. Dans son texte intitulé « Zone Sweet Zone », et qui sert de manifeste à l'association, Yvan Détraz explique que stigmatiser par principe les espaces périurbains en disant qu'ils ne pourront jamais être des espaces de sociabilité comme les centres-villes historiques l'étaient autrefois, est contre-productif. L'objectif de son association est à l'inverse de montrer que ces espaces peuvent aussi être des lieux de rencontre, des espaces publics, si l'on fait en sorte d'y aménager minimalement des chemins piétons et des zones de rencontre afin d'y organiser des marches collectives qui favorisent le lien social. À contre-courant d'un discours fataliste qui déplore l'existence ou l'aménagement défectueux de ces espaces périurbains, Yvan Détraz essaie de penser la possibilité de refaire société, de recréer du lien social à partir d'eux. En d'autres termes, penser le public non comme quelque chose qui dépend uniquement des institutions et des aménagements, mais aussi des individus qui se réunissent en collectif dans des espaces pour y créer une vie démocratique et politique.
Les marches collectives nous ramènent alors aux manifestations, aux luttes et aux occupations politiques, comme les ZAD, qui sont également un moyen pour les groupes humains de s'emparer de certains territoires. Les territoires ruraux en France souffrent aussi de décisions des gens d'en haut, imposées aux gens d'en bas, pour reprendre l'expression douteuse et méprisante de Michel Barnier, comme la construction de grands chantiers d'aménagement, comme la gestion de l'eau. Il s'agit là de grandes décisions, prises à l'échelle régionale ou nationale, voire même internationale, sur des biens qui devraient pourtant être communs. Les terres agricoles, les forêts, les cours d'eau, les nappes phréatiques, et pourraient être investis de façon plus démocratique. En France, des collectifs d'habitants, habitantes, de paysans, de scientifiques luttent localement pour s'opposer à l'accaparement des terres et des eaux disponibles. Ainsi, dans les Alpes, un projet de ligne TGV entre Lyon et Turin se rajouterait à des lignes ferroviaires déjà existantes. 7 tunnels sous 7 massifs doivent être creusés. Les montagnes renferment pourtant des réserves d'eau qui doivent être drainées afin de vider les galeries, si bien que des sources et des rivières se tarissent. Il s'agit de l'eau des habitants de la région et celle de la faune et de la flore des vallées. Si les arbres meurent, les montagnes perdent leur fixation, entraînant des coulées de boue et des éboulements. Les déblais extraits de la montagne pour les tunnels sont entassés sur des terres forestières et agricoles des vallées voisines. Il y a quelques jours encore, les médias annonçaient que la station de ski de la Clusaz avait pompé l'eau d'une source pour fabriquer de la neige artificielle sans autorisation depuis 20 ans. À la Clusaz, l'industrie du ski nourrit une certaine économie de la vallée. Les remontées mécaniques ont rapporté 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à la commune en 2023. Et la station doit accueillir l'épreuve de ski de fond des Jeux Olympiques d'hiver 2030 et ses nombreux visiteurs. Laurent Wauquiez, en avril dernier, argue ainsi face aux montagnes dont il est le président administratif à propos des JO, toutes les stations auront de la neige. Oui, mais à quel prix ? C'est-à-dire que ce à quoi il accorde de la valeur, la croissance économique de la vallée, n'est pas du tout aligné avec les réalités du sol, là où les Hauts-Savoyards vivent. La sécheresse à l'été 2022 et 2023 y a été déjà alarmante. Un certain nombre d'administrateurs privés et publics de ces terres sont donc hors sol. Il est urgent de refaire atterrir les prises de décision, de les relocaliser et ainsi de les discuter avec les habitants-habitantes. Par exemple, en priorité, discuter ensemble de quels emplois pourraient peu à peu se substituer au tout-ski pour les saisonniers, saisonnières précarisés qui en vivraient. Ce sont des luttes locales qui permettent de mobiliser, de politiser les citoyens. Les mouvements écologiques, qui ont longtemps alarmé sur les dérèglements climatiques, sur l'effondrement de la biodiversité, se sont heurtés au fait que les citoyens se mobilisent lorsqu'ils voient leur environnement proche affecté. En effet, l'attachement à la planète, au vivant, est un peu trop abstrait. Il ne met pas les gens en mouvement. Ce qui met en mouvement, ce sont des luttes directement liées aux conditions de vie des gens. La hausse du prix du gasoil, qui entraîne les blocages des gilets jaunes, le projet d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou d'une autoroute A69 entre Toulouse et Castres qui exproprie des habitants, prive des paysans de leurs terres, détruit des champs et des forêts, autrement dit des terres arables et de la biodiversité. Seulement, on a tendance à penser que de tels chantiers ne détruisent rien, parce qu'on se représente les espaces agricoles, forestiers, les friches, les montagnes, comme des espaces vierges et disponibles pour les transports, l'industrie, l'établissement de grands entrepôts Amazon. Quelle relation entretenons-nous finalement avec ces grands espaces que sont les champs, les forêts, en périphérie des villages? Ces grandes étendues de monocultures, de betteraves, de maïs, de vignes, un peu monotones, dont les haies ont été rasées. Nous sommes bien souvent incapables de dire d'ailleurs quels légumes poussent ici et à qui appartiennent ces terres. Nous les traversons très vite en voiture, les survolons en avion. Il y a encore quelques décennies, des paysans, des paysannes habitaient ces champs, les forêts et les cours d'eau étaient plus denses. Les aménagements de l'agriculture commerciale, industrielle, d'exportation ont créé en 50 ans des campagnes bien plus résidentielles, dans un pays où les agriculteurs et agricultrices forment seulement 2% de la population. Cela fait que les champs ne sont plus des espaces habités, connus, pratiqués, chantés, et que par ailleurs des machines et des procédés chimiques détruisent lentement les sols. L'enjeu est donc, en tant qu'habitant, habitante, avant même de faire quoi que ce soit, de se sentir concerné par cette perte de relation avec les champs qui entourent. Comment expliquer que l'on ne puisse pas se sentir concerné? Avançons plusieurs hypothèses. Beaucoup d'entre nous avons perdu le contact avec les champs que nos aïeuls, pour la plupart paysans, avaient. Quel contact? Le fait qu'ils cultivaient la terre, connaissaient les plantes et entretenaient avec leur jardin un rapport de subsistance. Aujourd'hui, l'on s'inquiète sans doute moins des champs parce que nous achetons nos légumes au supermarché. Au pire, le Maroc et l'Espagne nous nourrissent, entre autres. Mais à quel prix? Nous avons perdu un rapport d'intimité avec le proche en dehors de la maison individuelle. Nous nous pensons ainsi à l'extérieur de nos milieux de vie, en même temps que nous les possédons et pensons les contrôler de manière absolue. Or, les milieux de vie nous façonnent et agissent sur nous aussi. En détruisant, par exemple, les capacités de régénération de la terre, comme la disparition du phosphore, ou en polluant durablement l'eau des nappes phréatiques situées en dessous à cause des pesticides, on détruit progressivement notre lien à elle. Ce que la terre devient ne nous touche plus parce que le sentiment de son impérieuse nécessité se fait moins présent. De fait, la connaissance de la terre, du fonctionnement des écosystèmes, est devenue le domaine de la science et de l'ingénierie agricole, alors qu'auparavant tout le monde partageait des savoirs sur la terre. Or, la connaissance scientifique telle qu'elle s'est construite en Europe au XVIIIe siècle repose sur la constitution des éléments et des phénomènes naturels en objets soumis à des lois homogènes que découvriraient les scientifiques. La connaissance de ces lois permet alors l'exploitation de la nature dans la lignée de la célèbre citation de Francis Bacon « Knowledge is power ». Savoir, connaître la nature, c'est la maîtriser, c'est pouvoir l'exploiter. Cette science a beaucoup été instrumentalisée par l'industrie aujourd'hui. L'armement, l'agronomie, le développement des transports. La connaissance et la technique ont fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs et agricultrices ont dû s'endetter pour acheter des machines, des engrais, des logiciels, et que l'agriculture est presque inséparable de ces technologies, comme l'a montré la crise récente politique. Or, il est souhaitable de trouver un juste milieu entre une agriculture vivrière traditionnelle plus douce, qui exposait à des famines, mais ne détruisait pas la terre, et une agriculture industrielle exportative qui exploite et produit dans des quantités démesurées grâce aux technologies scientifiques qui subsistent parce que de grandes entreprises brassent énormément d'argent.
Si de telles grandes entreprises, si des grandes exploitations agricoles en sont arrivées là aujourd'hui, si les États rasent des forêts, c'est aussi parce que nous envisageons nos rapports à la terre à travers le filtre de la propriété privée. La propriété privée, d'après la Constitution française, désigne le droit détenu par une personne physique ou morale d'user, de profiter et de disposer d'un bien de toute nature, corporel ou incorporel, dans les conditions fixées par la loi. Le Code civil de Napoléon en France, établi au XIXe siècle, a été interprété principalement dans le sens d'une propriété exclusive et souveraine d'un propriétaire sur ses terres. Le propriétaire est reconnu comme sujet de droit, tandis que ses terres, et tous les vivants et les processus écosystémiques qui s'y trouvent, sont considérés comme étant la propriété absolue de ce sujet de droit. Cela signifie que le propriétaire peut disposer de sa propriété comme il l'entend, du moment qu'il ne procède pas à sa destruction totale, en latin abusus. En Angleterre, la généralisation de la propriété privée a principalement eu lieu lors du mouvement des enclosures, entre le XIIe et le XVIIe siècle, au moment de la disparition de la propriété communale au profit de la propriété seigneuriale des terres. Dans le sillon de ce mouvement, en France, au moment de la Révolution française, les terres travaillées par les paysans et les communaux, marais, garrigues, forêts, ont été globalement accaparées et revendues. Or, selon la juriste Sarah Van Uxem, dans son ouvrage intitulé « La propriété de la terre » et publié en 2022, cette interprétation du code civil et de la propriété, exclusive et souveraine, qui perdure aujourd'hui, ne va pourtant pas de soi et pourrait être repensée. En effet, elle fait abstraction des qualités propres du territoire et ce faisant, elle considère la terre comme un bien plutôt que comme un milieu de vie. Dans la réalité des faits de comment nous habitons sur un territoire, les propriétaires privés mais aussi les propriétaires communs des communaux, par exemple un bois, sont codépendants des milieux où ils vivent. Ainsi, un ou une agricultrice ne doit pas en théorie jouir du droit d'utiliser des pesticides polluants, les nappes phréatiques et les cours d'eau au nom de la propriété. Puisque précisément, cela nuit tant à sa propre faculté d'habitation qu'à celle de tous ses voisins. Sarah Van Uxem prend l'exemple d'autres droits, par exemple à l'étranger, qui reconnaissent la propriété comme un faisceau d'usage alloué à quelqu'un, y compris à d'autres espèces vivantes, plutôt qu'un droit absolu de disposer d'une chose. Cela signifie qu'être propriétaire, c'est disposer d'un droit d'usage, comme par exemple le fait de pouvoir cultiver la terre, plutôt que d'un terrain, comme d'une chose. Cette conception des droits d'usage contribue à penser la nature comme un milieu de vie partagé plutôt que comme un bien. Cela permet de défendre notre droit d'accès à la nature ainsi que le droit de passage des animaux. En effet, Sarah Van Uxem explique que les droits de passage sont théoriquement exclus de la propriété privée dans le cadre français. En gros, vous n'avez pas le droit de passer sur le terrain de quelqu'un, précisément parce que le propriétaire est propriétaire du terrain et non d'un certain droit d'usage. Ces droits de passage sur un terrain existent pourtant dans d'autres pays, par exemple l'Écosse, la Finlande, la République tchèque. Dans ces pays, le droit d'accès à la nature, en anglais « freedom to roam », permet à chacun et chacune de passer sur les propriétés privées d'autrui pour jouir des chemins et des paysages. En Finlande, cela va même jusqu'à reconnaître le droit à la cueillette, par exemple au ramassage des baies. L'idée d'usage commun des terres qui ne peuvent être exclues par le propriétaire témoigne d'un autre rapport à la propriété privée. Une propriété privée définie comme une faculté d'habitation des milieux, en soi partageable, dans une certaine mesure, avec tout le monde.
En plus d'une certaine définition de la propriété privée, c'est peut-être la disparition des attaches plus spirituelles à la terre qui a pu aussi justifier son sabotage. L'existence de ces liens, spirituels, païens, religieux, affectifs, tissaient une forme d'équilibre, de respect, de peur aussi. La sacralité de la terre a été remplacée par la valeur de la propriété privée. Elle est bien définie en France en effet comme un droit naturel, inviolable et sacré. Il semble donc que d'un moment à l'autre de l'histoire, d'un endroit à l'autre de la terre, on puisse déplacer ce qui est sacré, déplacer les valeurs. Avant, nous pouvions parler de communion, là où aujourd'hui nous formulons « je me sens en connexion avec la nature ». L'usage du terme « connexion » montre que la prégnance de la technologie dans nos modes de vie est fort, et qu'elle nous sert d'image, pour penser le monde, pour penser la relation. Là où avant, le terme « communion », issu du lexique religieux, était plus prégnant. En définitive, les mots pour parler des choses sont d'une importance cruciale puisqu'ils témoignent de la façon dont on se représente le monde. Avec quels mots parlons-nous de nos relations avec les lieux de vie ? Je voulais un instant examiner l'imaginaire autour du mot racine. Tour à tour amélioratif, quand on dit « je suis allé me ressourcer à l'endroit de mes racines » ou péjoratif si l'on veut dire que quelque chose est difficilement changeable, adaptable. Par exemple, cette idée est enracinée profondément. En tout cas, on utilise le mot racine pour se référer à l'origine, à la base de transmission, peut-être à la cause, ou encore à l'endroit d'où quelque chose vient tirer sa vitalité. Par exemple, dans la phrase « la poésie trouve ses racines dans la musique populaire de tradition orale, pour dire qu'elle en vient, pour lui retracer une histoire. La philosophe Joëlle Zask, dans un livre intitulé « Se tenir quelque part sur Terre », réfute le terme de racine, qui renvoie selon elle à l'idée qu'un individu ou une communauté serait lié par nature, par essence, par destin, à une terre, puisque de fait, la racine est ce qui se développe dans le sol. Elle apparaît comme ce qui se dresse comme lien de filiation naturelle. Le Troisième Reich et son expansion reposaient ainsi sur l'idéologie qu'un certain peuple, une certaine race, était naturellement lié à une certaine terre, qui leur revient ainsi de droit, ce qui a assis l'extermination de celles et ceux qu'on a considérés être d'une autre race. L'affirmation de leur supériorité par une doctrine raciste les autorisait à s'agrandir et à annexer d'autres pays. Aujourd'hui, une instrumentalisation similaire, idéologique, du rapport de propriété et d'ordre naturel au territoire conduit un génocide en Palestine. Or, aucun peuple n'est à un endroit par nature. Chaque groupe humain construit une mythologie ou un récit national pour légitimer sa présence sur un espace, et le fait de raconter « j'ai mes racines à un endroit » en fait partie, comme la légende de Romulus et Rémus pour la construction de Rome. Joëlle Zask donc cherche des termes pour reformuler les relations au lieu, et préfère des phrases comme « se sentir relié à »,« porter dans son cœur tel endroit », qui ferait « partie de soi », affirmant que les lieux sont des compagnons qui font partie de l'individu, mais ne devraient jamais être une propriété exclusive. Pour elle, même le verbe « habiter » a une tonalité territoriale et possessive. J'émettrai quelques réserves à cet endroit. De fait, nous ne faisons pas que porter des lieux dans notre cœur, mais nous vivons dessus. Nous y construisons des choses, nous les arpentons, nous les cultivons, on y bâtit des immeubles et des échangeurs autoroutiers. Nous avons des rapports matériels, utilitaires, économiques avec les endroits, ou encore affectifs, comme la maison d'enfance. Et peut-être en France assez peu souvent spirituels. Or, utiliser un terme comme racine du lexique végétal permet de se rappeler qu'il y a une croûte terrestre sous nos routes et nos maisons, et que là où nous habitons, nous avons un impact sur cette terre. Que notre corps et l'endroit où nous vivons sont liés d'une certaine façon. Le terme de racine me semble intéressant pour rappeler que là où la terre est polluée, nous le sommes aussi. Cela ne signifie pas une filiation irrémédiable, la racine ce n'est pas impérissable, cela naît, cela se décompose. Une première racine est d'ailleurs généralement contenue dans une graine sous la forme d'une radicule qui, quand la graine germe, permet à la vie de s'ancrer dans le sol pour y trouver eau et nutriments. La racine n'est donc pas le début de toute chose, mais la partie d'un cycle de certains végétaux. Elle est plurielle, se ramifie, se met en relation, aère le sol, négocie l'espace. Le système racinaire donne à voir une multiplicité de liens. Accoutumé à un nouvel endroit, une nouvelle ville, j'ai beaucoup formulé « j'y fais doucement mes racines » pour dire « j'y multiplie des liens divers qui chacun me nourrissent, me sécurisent ». Ces systèmes racinaires ne sont pas tous invasifs. Dans les forêts, les différents systèmes de certains végétaux sont capables de se sentir et de se laisser de la place. Enfin, des racines, ça se transplante aussi. Quiconque a déjà replanté une bouture sait que des racines, cela se refait, cela se déplace. Mais qu'il y a des environnements auxquels une plante est plus habituée qu'une autre. J'ai déplié un peu les fonctionnements des systèmes racinaires pour montrer qu'ils peuvent aussi raconter le lien, l'ancrage, la cohabitation, la négociation, le déplacement, et que les mots sont des terrains de combat idéologiques que l'on peut se réapproprier. Les métaphores végétales offrent des images intéressantes pour penser notre rapport au monde en termes d'indépendance, notre besoin d'eau, de terre, de lumière. Il peut être judicieux de multiplier ces images pour se repenser comme partie du monde en tant qu'humain. Le terme de racine peut en faire partie, mais il n'est pas exclusif. Il est même important de ne jamais fixer qu'un mot, mais d'effeuiller les termes, de jongler avec les images pour enrichir nos façons de nous rapporter au monde. En France et en Espagne, je me suis intéressée à des écrivains, poètes, poétesses qui travaillent cette question. La poésie, parce qu'elle manipule les mots, cherche des images, a toujours traficoté le langage. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est quand elle cherche des mots pour parler d'expériences vécues dans un sol. Aurélie Olivier a grandi dans une région très polluée par l'agriculture industrielle. On lui a diagnostiqué un cancer de la peau. Elle est partie de cette région et elle en témoigne dans une formule très belle, publiée dans son texte de poésie « Mon corps de ferme ». La tristesse des racines, essorée par les nitrates. Dans un magnifique texte intitulé « Pecnode », Juliette Rousseau, autre poétesse, tente de décrire sa relation avec l'endroit où elle a grandi, puis est revenue vivre, mais constate qu'il lui manque des mots. Elle écrit « Je ne sais pas comment parler d'où je viens, comment le dire ?» Elle s'emploie dans ce texte à construire un récit intime et collectif à la fois, pour y répondre, et compose par exemple le mot « territoire-mémoire » pour parler de la façon dont son paysage, son pays, l'émeut, l'affecte, lui raconte sa vie et celle des autres. Histoires qui ne sont pas visibles objectivement ou sur une carte, mais ressenties très fort. Cela m'évoque la façon dont Maria Sanchez, vétérinaire de campagne en Espagne, qui écrit également, se réapproprie des formules en langage quechua, c'est la langue autochtone des Araucans en Amérique latine. En quête de métaphore, elle désire un langage qui puisse, je cite, « abrazar, hermanar al territorio », c'est-à-dire prendre dans ses bras le territoire, le considérer comme frère ou sœur. Juliette Rousseau, dans Pecnode, imagine les marques de son pays à l'intérieur d'elle, à une époque où il aurait été encore vivant, fourmillant de vies diverses. Elle écrit « J'ai corps à croire au retour d'un monde vivant, peuplé, abondant. Sa mémoire m'habite. Au ventre, les prairies et les landes que le vent caresse en faisant carillonner les graminées, rudoyant les ajoncs. On n'entend presque rien, mais on ressent tout, très fort. Et le long des terres vaines et vagues, le souffle reprend, se réveille aux parcelles, s'engouffre dans les chemins creux. Les haies me sillonnent, m'épaississent, tandis que les talus mettent à l'abri mes délicatesses. Je retrouve les aspérités de mon corps bocage, je retrouve une famille. Le regonflement de la terre, le retour des haies, recomplète le corps de l'habitante, le refait respirer. Le corps tiré bocage, malade d'inquiétude, montrait à quel point l'état du territoire peut nous affecter. Et la poésie entend imager ces liens que le langage et la culture occidentale ont fait péricliter. Hortense Reynal, une autre poétesse, emploie des métaphores de jardinière pour parler de l'art. Elle écrit « Pour faire poésie, il faut creuser. Il me plaît à penser que ce geste est bien le signe que poésie et vie se mélangent. J'irai plus loin. Les premiers mots me sont venus en ayant la sensation d'être matière parmi la matière qui m'entoure. La poésie relie et colle la personne qui l'écrit au sol et au relief du monde. Elle la place dans sa grande situation de vivante. À la question « Que peut la poésie aujourd'hui ?», je répondrai ça. La poésie peut, en mettant à l'œuvre en actes et en mots cette discipline-là, apporter une réponse collective à la détérioration du tissu relationnel entre individus, entre les individus et les autres espèces, entre les individus et leur environnement, entre les individus et les forces qui les dépassent. » Fin de citation. Mais comment la poésie peut-elle être cette réponse collective ? Dans la Drôme, Laetitia Godefroy Colombo compose des gravures et écrit des textes poétiques qui parlent des collines où elle vit, du jardin, des chemins, des animaux, de la rivière, la Sauve, des montagnes, comme la Lance. Cette façon de créer des poèmes à partir du quotidien, dans un lieu vécu, de façonner des gravures à partir du matériau du bord, comme le bois, entend montrer qu'il y a des pratiques artistiques, culturelles, autonomes, très proches de la vie, du pays, du sol, de la forêt. Ce sont des pratiques qui accompagnent le territoire en ce qu'elles se soucient de réciprocité, esquissent des gestes d'autosuffisance, là où dans nos sociétés. Faire de l'art, pratiquer la culture, signifie forcément sortir de son patelin et très souvent dépendre d'une grande industrie culturelle inégalitaire. Laetitia Godefroy est éditée par Maud Leroy, des éditions des Lisières, et les livres fabriqués par Maud dans la Drôme montrent un souci de fabriquer un objet marqué par l'économie d'un territoire. En éditant Laetitia, elle porte la poésie d'une personne de son département, là où elle habite aussi. Circuit court du livre. Ces imprimeurs se situent dans le Vaucluse ou dans l'Hérault. Les couvertures sont réalisées avec un artisan typographe qui vit à quelques kilomètres. Les relieurs sont marseillais. Et ainsi son modèle laboral, qui passe par l'association plutôt que par la micro-entreprise, maille toute une économie du proche. Et il est vrai que le livre vendu en France, comme tout objet aujourd'hui, est au centre d'une énorme industrie. Il est souvent imprimé à l'autre bout de la planète ou du continent, dans des quantités astronomiques, et achalandé sur les étals pleins à craquer des librairies, dans l'objectif d'être écoulé le plus possible. Et les recherches éditoriales allant contre ce principe industriel, comme celle des éditions des Lisières, me semblent nécessaires. Pour des artistes qui pensent que l'art s'est éloigné de la vie des gens et des territoires marginalisés, la musique, la poésie, peut être réutilisée pour rapprocher les gens. Créer de l'appartenance à un territoire rural ou périurbain, un quartier délaissé par les politiques sociales. J'ai rencontré au cours de mes recherches avec des collègues Camille et Mathilde de l'association Les Belles Fans, deux musiciennes et travailleuses sociales à Toulouse. Elles ont porté le projet d'une résidence de territoire dans un quartier appelé les Pradettes, qui est un quartier de 10-15 000 habitants, où vivent 50% de personnes en dessous du seuil de pauvreté, dont beaucoup, mais pas tous, sont immigrés primo-arrivants, allophones, relativement isolés, déracinés. Camille et Mathilde ont commencé les premiers mois à observer le quartier, les jours de marché, les places où les gens se retrouvent, et à jouer de leurs instruments de façon spontanée à différents endroits. Des habitants habitantes s'arrêtaient pour faire la discussion et pour parler musique. Au bout d'un certain temps, elles ont instauré des cafés musique, les après-midi dans un bar culturel du quartier, et des femmes, des habitantes, sont venues pour discuter. Elles se sont échangées des chants, Mathilde livrant des chants occitans qu'elle connaissait, Camille par exemple des chants espagnols, et les habitantes ont livré des chants traditionnels de leur culture avec joie. L'activité s'est étendue à certains soirs de semaine où plus de monde venait, des soirs de musique et de chants spontanés appelés cantades en occitan, où le principe est simplement de lancer des chants partagés que tout le monde reprend. Au bout de plusieurs mois, elles ont rencontré beaucoup de gens et découvert que beaucoup d'habitants du quartier étaient des musiciens, des chanteurs. Elles se sont livrées à des collectes. Collecter une personne ou un groupe, c'est proposer d'enregistrer en format numérique audio une musique et d'écouter son histoire. Ce travail, qui est en fait un immense travail d'ethnographie musicale, s'est aussi donné comme un travail social puisqu'elles ont accueilli des habitants, habitantes qui se sont mises à parler d'eux, de leur chemin, de leur pays, de leurs histoires. Ils et elles y ont trouvé réconfort et solidarité. Pour beaucoup d'habitants, ces moments de musique ont été de précieux moments de joie dans le quotidien et une façon de renouer avec leur vie laissée derrière eux, en Ukraine, en Géorgie, en Tunisie, au Burkina Faso, à Madagascar. Aujourd'hui, Mathilde se réunit avec certains d'entre eux régulièrement puisqu'ils sont parvenus à monter un orchestre populaire et à relancer la fête de la musique du quartier le 21 juin. Toutes ces initiatives accomplissent un travail de tissage, de lien social et culturel sur un quartier pourtant marginalisé par les transports et l'aménagement de la métropole, habité par des personnes précarisées. Les Belles Fans ont réussi à infuser de la vie dans ce quartier en travaillant à partir du terrain, depuis les besoins et les envies des habitants-habitantes. Et la musique y a joué un rôle fédérateur, de premier langage de communication entre des personnes de langues et de pays différents. Et par elle, il y a pu avoir reconnaissance et partage de la mémoire des habitants-habitantes. En l'état, leur travail a été tributaire des subventions publiques et de beaucoup de temps de bénévolat. De fait, les pratiques de musique, de chant, de danse à plusieurs créent des moments festifs un peu exceptionnels aujourd'hui. Mais ces pratiques ont longtemps été autonomes, naturelles, répandues dans les sociétés paysannes traditionnelles, et pas sous la responsabilité d'initiatives sociales et de subventions étatiques. Chanter ensemble, danser ensemble, pendant ou hors le travail, constituait depuis longtemps une manière de faire corps, de faire communauté et solidarité. Ces pratiques relèvent aussi du commun dans la mesure où ces chants traditionnels appartiennent à une communauté, une mémoire, jamais à un individu, un auteur, et leur réalisation est collective et collaborative, et permet de façonner à plusieurs des appartenances.
Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, Je vous invite à suivre la page Instagram de l'émission @lesvanupieds et à le partager sur les réseaux sociaux et à vos proches. C'était Magali et Benoît pour les Vanupieds et nous vous saluons.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Vanupieds, Vanupieds, tout est Vanupieds.
Suivons le mouvement de la pensée.
Sur Radio Bartas.
Tout est Vanupieds.